Donc pour ceux qui nous visitent, on fait une étude suivie, ce qui s'appelle prédication expositive, expository preaching en anglais, sur la lettre de Paul aux Corinthiens. Donc on a, ça fait déjà depuis le mois de mai qu'on est dans cette étude. Donc on avance progressivement, dimanche après dimanche, on est à 1 Corinthiens 14. Chapitre 12, c'était sur les dons spirituels. Paul, il ouvrait une première parenthèse qui refermait un peu le temps du chapitre 13 pour dire « les dons, c'est bien, mais l'essentiel, c'est l'amour ». Et là, il rouvre la parenthèse de nouveau, chapitre 14. Il revient de nouveau sur les dons, langue et prophétie. Et on va justement voir cet aspect aujourd'hui. Alors, ce passage est un petit peu long, donc on va le découper. On va lire 1 Corinthiens 14. Nous lirons les 12 premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 12. C'est très dense, donc on va le découper en plusieurs parties. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Prions. Seigneur, en effet, nous avons besoin d'entendre une parole distincte, intelligible, compréhensible, pour pouvoir être édifié. Sinon, Seigneur, qu'allons-nous comprendre? Rien. Ta parole est claire, ta parole est limpide. Nous allons l'étudier à présent, que ce soit toi-même qui parles à nos cœurs. Nous voulons laisser ta parole nous parler, Seigneur, éclairer nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous conduire dans un esprit de vérité. Seigneur, que tu aies toi-même conduit, Seigneur, toutes choses pour la lecture de ce passage aujourd'hui, que tu parles à nos cœurs. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans ce passage qui est un peu long, chapitre 14, j'ai lu juste une partie. Il y a deux points qui sont vraiment abordés, il y a deux parallèles. C'est les langues et la prophétie. Et vous avez vu dans l'introduction, Paul, il met clairement l'accent sur la prophétie quand même. Avant les langues, il dit avant toute chose, aspirer à la prophétie. On verra ça la semaine prochaine. On va le faire en deux parties, donc cette fois-ci, je vais parler des langues. On va s'arrêter sur ce passage parce que Paul en parle vraiment clairement. Et puis, on sait que ça provoque un peu parfois des problèmes de doctrine dans les églises, d'incompréhension entre frères et sœurs. Donc, c'est peut-être important de regarder ce que la Bible dit ce matin. Le parler en langue, on le trouve pas dans les églises baptistes en général, on est plutôt réfractaire à ces pratiques, évidemment. Il y a d'autres mouvements chrétiens qui revendiquent le parler en langue. Parler en langue, ça veut dire, pour être simple, c'est louer le Seigneur dans une langue incompréhensible. Voilà. Alors ça s'appelle la glossolalie, c'est un terme un peu technique. Voilà. Alors, pour les personnes qui pratiquent, ils disent que c'est une confirmation qu'on a bien reçu le Saint-Esprit de Dieu. On a le Saint-Esprit parce qu'on parle en langue, c'est une des preuves, et que donc tous les chrétiens, normalement, devraient parler en langue, parce qu'ils devraient avoir le Saint-Esprit. Alors, je sais que certains de nos frères et sœurs sont troublés, je peux en avoir parlé avec eux à juste titre, donc on va voir ce matin, afin de prendre position, que dit la Bible? On va se baser sur les Écritures, on va pas en sortir forcément des interprétations hors contexte. On va rester vraiment dans le contexte de la parole et puis on va prendre position à la fin. Alors on va regarder déjà quel passage du Nouveau Testament mentionne cette pratique. Le contexte de l'Église à Corinthe, où c'est expliqué ici. Ce qui va nous intéresser tout particulièrement pour nous, c'est ce que Christ a dit de parler en langue. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur ça? Et puis ensuite, on pourra définir la place de ce don dans l'Église aujourd'hui. Voilà, où en est-on avec le parler en langue? Alors, le parler en langue dans le Nouveau Testament. Il y aurait des passages dans l'Ancien Testament, c'était toujours du jugement. Le premier passage de la Bible qui fait mention de langue, à votre avis, c'est dans quel livre? Babel, voilà. Dès Babel, dans Genèse, on a ces langues. Dieu a dit, après le déluge, à tous les hommes de se répandre sur toute la surface de la terre, de couvrir la terre. Pas du tout, c'est pas leur intention. Ils veulent rester ensemble, et donc ils arrivent dans la plaine de Shinéar, et puis là, ils vont se faire une ville, un nom, comme ils disent, et puis une tour qui va monter jusqu'au ciel. L'orgueil des hommes qui veulent atteindre Dieu par les œuvres, hein, d'une certaine façon. Donc Dieu va juger et va diviser avec les langues. Division, jugement. Voilà, ce sera la première notion des langues. Il y en a une deuxième dans les prophètes, on va la voir juste un petit peu après. Encore une fois, c'est un jugement, cette fois-ci c'est pour Israël. Au début, c'est pour toute l'humanité. Deuxième mention, dans Ésaïe, c'est pour le peuple d'Israël, on va y venir après. Mais nous, on va s'intéresser au Nouveau Testament, parce qu'ici, il y a un don de parler en langue, qui est un peu spécifique et voilà, qui peut nous surprendre pour certains. À l'époque de Paul, dans l'Antiquité, le parler en langue, ce n'était pas une spécificité de l'Église. Ça existait déjà dans le paganisme. Chez les païens de l'époque, on parlait déjà dans les temples en langue. Ce n'était pas quelque chose qui était réservé à l'Église de Dieu. Et aujourd'hui, c'est des pratiques qu'on trouve essentiellement dans les églises. Vous les connaissez certainement, pentecôtistes, charismatiques, mais aussi chez les catholiques. Il y a des catholiques qui parlent en langue. Il y a des mouvements catholiques qui parlent en langue. J'ai regardé, j'étais surpris. On le trouve également dans le spiritisme, dans le chamanisme et même en psychiatrie. Voilà. En psychiatrie, il y a des personnes qui parlent en langue. Voilà, étonnant. Alors, sachez que c'est une pratique qui avait disparu à la fin du 1er siècle. À la fin du 1er siècle, c'est une pratique qui s'estompe, et on va voir pourquoi, qui disparaît pendant plusieurs siècles. Et quand on lit les textes des pères de l'Église, vous savez, les premiers chrétiens un peu fondateurs, là, Saint Augustin, etc., etc., on voit que dans leurs écrits, effectivement, vous allez voir comment ils commentent ce passage de 1 Corinthiens, c'est assez surprenant, ou pas d'ailleurs. L'Église est déjà divisée à une certaine époque, hein, Occident-Orient, et pour la partie Orient, c'est Chrysostome. Vous avez déjà entendu parler de Chrysostome? Ouais, certains d'entre vous. 4e siècle après Jésus-Christ, voici comment il commente 1 Corinthiens 12, verset 1. Alors, je ne disais pas forcément le verset parce que ça parle du parler en langue, etc. Après, il développe. Mais il dit, tout ce passage est fort obscur. Et cette obscurité vient de ce que nous ne savons pas assez de quoi Paul traite ici. Les choses dont il parle alors étaient de l'usage ordinaire, alors que maintenant, elles ne sont plus, elles ont disparu. Donc, 4e siècle, Chrysostome, père de l'Église, dit, on n'arrive pas trop à comprendre 1 Corinthiens 12, 13, 14, parce que c'est obscur pour nous, tout ça, ça a disparu. Donc, c'était dans le contexte de l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Donc, voilà. Augustin, saint Augustin, ça vous parle un petit peu plus? Ouais, là c'est l'église d'Orient, même période, 4e siècle. Voici comment il traite le passage du parler en langue d'un Corinthiens 14. Pour une fois, l'église d'Orient et d'Occident étaient d'accord, vous allez voir. Il dit, vous savez comment le ciel répondit à leurs prières? Par un grand prodige, c'est la Pentecôte. Tous ceux qui étaient présents n'avaient appris qu'une seule langue. L'Esprit Saint descendit sur eux et remplit leur âme. Et ils commencèrent à parler les langues de tous les peuples sans les connaître, sans les avoir apprises. Est-ce qu'aujourd'hui, mes frères, le Saint-Esprit n'est plus donné? Celui qui le croirait ne serait pas digne de le recevoir. On reçoit donc le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Pourquoi donc ne parle-t-on plus aujourd'hui toutes les langues comme le parlaient ceux qui recevaient alors le Saint-Esprit? Pourquoi? Bien parce que la signification mystérieuse du don des langues est accomplie. Cette église si peu nombreuse, qui parlait toutes les langues, était le symbole de cette grande église qui s'étend du lever du soleil jusqu'à son coucher et parle les langues de tous les peuples. Cette promesse a déjà reçu son accomplissement. Voilà ce qu'on disait au 4e siècle du parler en langue. On disait, c'est terminé, parce qu'aujourd'hui, c'était quelque chose d'éclatant au début pour annoncer au peuple la gloire de Dieu dans toutes les langues. Mais aujourd'hui, ça y est, l'évangile s'est répandu dans toutes les langues. Donc, plus la peine. Donc pour les pères de l'Église des premiers siècles, parler en langue, ça avait disparu, plus nécessaire, voilà. Et ce n'est que 15 siècles plus tard que... Voilà, aujourd'hui, 15 siècles plus tard, ça réapparaît, donc il y a 19 siècles, presque 19 siècles depuis le début où ça s'est terminé. Et bien, au début du 20e siècle, ça réapparaît, non, ce qui va créer le mouvement pentecôtiste. Il y a un pasteur, un prédicateur qui va faire un baptême, qui va se mettre à parler en langue, et à partir de là, il va créer un mouvement, le mouvement pentecôtiste. Alors, ça c'est un peu d'histoire. Que dit la Bible ? Que dit le Nouveau Testament sur le parler en langue ? Alors, il y a surtout deux livres qui l'évoquent principalement, c'est le livre des Actes et 1 Corinthiens. Après, vous avez une petite pensée par-ci par-là, mais vraiment le parler en langue, on peut sortir des textes aussi, hein, dans deux textes un petit peu si on les prend parfois un peu hors contexte, mais c'est surtout essentiellement Actes et 1 Corinthiens où on se trouve actuellement. Et dans Actes, c'est mentionné 3 fois. Il y a 3 épisodes. Alors on va regarder le plus célèbre, c'est à la Pentecôte, acte 2, versets 1 à 8. C'est un épisode que vous connaissez certainement, mais peut-être pas. Donc ça vaut la peine de le regarder, parce que si on étudie sur le passage en langue, c'est quand même le texte un peu fondateur, quelque part, enfin celui qui fait référence pour nos amis d'autres confessions. Le jour de la Pentecôte... Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, pour réexpliquer le contexte, donc Christ est déjà mort, Christ est parti, il a dit aux apôtres, « Restez à Jérusalem, vous allez recevoir le Consolateur, le Saint-Esprit qui va venir. Ne bougez pas de Jérusalem. » Donc, Christ est parti retrouver son Père au ciel. Et puis, on se retrouve à Jérusalem avec les apôtres. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent. Séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, etc., etc. Donc ici, on a un événement fondateur, hein, un événement un peu spectaculaire. Ça va être la naissance de l'Église, donc feu d'artifice, les langues qui descendent, les personnes qui se mettent à parler dans des langues connues, hein, n'est-ce pas, des personnes qui sont autour, et les juifs qui sont là sont surpris en disant « Mais comment c'est possible? Quelle merveille !» Alors il y a plusieurs points importants ici. Les apôtres ont bien parlé dans des langues étrangères. Ils ont bien parlé des langues. On est d'accord, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ils parlent bien dans d'autres langues, pas de souci. En revanche, notons bien que c'était des langues qui étaient connues et reconnues par les juifs qui étaient présents à ce moment-là. Donc, il n'est pas fait ici mention de langues inconnues. On est d'accord, hein ? Voilà. Là, il n'y a pas d'interprétation possible. Donc, Pierre, il va en profiter, évidemment. C'est l'opportunité que le Seigneur ouvre une porte formidable. Donc, Pierre va alors présenter l'évangile du salut en Jésus-Christ. Il va en profiter pour dire à ces juifs que le Fils de Dieu, Christ, s'est fait homme, ce qu'on rappelle en ce moment à Noël, que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu parmi nous, il allait grandir, il allait mourir pour les péchés de toute l'humanité sur la croix, il donne sa vie pour toute l'humanité, mais que c'est un salut individuel, qu'il va falloir maintenant que chacun accepte le sacrifice de Jésus, reçoive ce Seigneur et Sauveur dans son corps pour avoir accès au Père dorénavant. L'ancienne alliance se termine, la nouvelle alliance commence. Et nous voyons cet événement formidable, et Pierre va alors prêcher l'évangile, et 3000 hommes vont se convertir à ce moment-là. Magnifique. On lit la suite, versets 41-43 du chapitre 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière du pain, dans la fraction du pain, pardon, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alors, deux points importants ici. Il y en avait trois sur le passage d'avant. Ici, il y en a deux. Est-ce que vous avez noté qu'il ne mentionnait pas qu'il persévérait dans le parler en langue ? Ah, ils auraient pu, hein ? C'était clairement l'opportunité, quoi. Enfin, si le parler en langue est quelque chose d'essentiel à la vie chrétienne, c'était la première fois que des hommes parlent en langue, ben, si tu veux remonter verset d'avant, à ce moment-là, ils auraient pu persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans le parler en langue et dans les prières. Après tout, ça aurait été logique que ça s'ajoute ici, hein. Ça s'intercale à cet endroit. On n'en voit pas notion, peut-être c'est un indice pour nous. Effectivement, il y a bien des signes et des prodiges qui se font, aucun problème, il y a des grands miracles, etc. Mais verset suivant, donc 43, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Et les églises qui préconisent le parler en langue, qui le recommandent, c'est également des églises où souvent, il y a aussi plein d'autres actions un peu fantastiques, hein, un peu spectaculaires, guérison, exorcisme, etc. Mais ici, regardez, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par qui ? Par les 3000 disciples ? Par les apôtres ? C'était un cercle restreint qui avait la possibilité de faire des miracles. C'était pas tout le monde. Hein. Là, à la Pentecôte, c'était, on précise bien, c'était bien les apôtres. C'était eux qui faisaient des miracles. Pas les 3000. Deuxième indice pour vous. Alors, ce premier signe à la Pentecôte, c'est langue, là, se parler en langue. Le premier signe, là, il est pour les Juifs. Clairement, c'est pour les Juifs pour dire, dorénavant, c'est pas réservé au peuple d'Israël. Voilà, la grâce est pour tous dorénavant. Le Messie est venu, les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent. Ce seront dorénavant des nations non-juives qui vont annoncer le Seigneur sur toute la surface de la terre. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on va lire ce passage, Ésaïe 66, versets 18 à 19. Ésaïe 66, versets 18 à 19. Donc on a vu un des signes de l'Ancien Testament pour les langues, c'était Babel. Le deuxième, c'est dans les prophètes. Jugement, voilà. Ésaïe dit, c'est Dieu qui parle hein, à travers le prophète, mais il dit « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan. » Javan, c'est la Grèce, hein. Selon les traductions, mais j'avance, c'est la Grèce, second 21, le traduit Grèce. Aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Donc, Dieu l'avait déjà dit clairement dans l'Ancien Testament, jugement pour Israël, voilà, vous n'avez pas respecté, vous avez été infidèle, idolâtre, etc. Dorénavant, c'est toutes les autres nations qui vont annoncer ma parole à travers le monde. Et Javan, alors c'est dommage pour le 79, 21 le traduit très bien en Grèce, Javan, c'est la Grèce. En quelle langue a été écrit le Nouveau Testament ? En langue grecque. Et c'est parce qu'il y avait une culture grecque dans le bassin méditerranéen, une culture commune, une langue commune. Le Seigneur avait choisi ce moment-là parce que c'était un moment idéal. Il y avait une fenêtre ouverte qui était formidable pour que sa parole s'universalise très rapidement. Il a attendu le temps propice. C'est le temps qu'il avait décidé. Voilà. Et quand cette langue a baigné le bassin méditerranéen et Rome, etc., il y avait une seule culture après les Grecs, les Romains et tout. Il y avait un seul empire, c'est là où le Seigneur, pardon, a considéré que c'était le moment pour faire venir Jésus-Christ. Et effectivement, la parole s'est répandue comme une traînée de poudre juste après. Voilà, merci pour la seconde 21. Donc ce sont les autres nations qui vont annoncer la parole de Dieu. Les langues qui sont annoncées ici, elles sont clairement précisées. Et puis on a même la Grèce qui apparaît de façon très claire. Alors, première mention, la Pentecôte, dans le livre des Actes. Deuxième mention, à présent, c'est lors de la conversion de Corneille. On va regarder dans Actes. Chapitre 10. Ici, on a un officier romain qui s'appelle Corneille, qui reçoit une vision d'un ange qui lui demande de faire venir dans sa maison Pierre. Corneille, c'est un craignant Dieu, hein. C'est quelqu'un qui craint le Dieu d'Israël. C'est un Romain, mais voilà, il vit en Israël hein, pour son travail, là, c'est l'armée. Hein. Et puis, il est quand même, c'est un craignant Dieu, voilà. Il craint ce Dieu d'Israël. Et puis donc, il y a cet ange qui le visite et qui lui dit « Va chercher Pierre, un dénommé Pierre, tu le fais venir ». Il y avait à ses oreilles un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vous voyez, des fois, il y a des gens qu'on ne soupçonne pas. Hein. Je pense que les Juifs autour de lui ne s'imaginaient pas que cet homme était vraiment... Il avait la crainte de Dieu, quoi. Et on va lire versets 44 à 47. Donc, un ange va lui apparaître. Il va lui demander d'aller chercher Pierre. Pierre, il a cette vision qu'il ne doit pas aller vers les non-juifs, tout ça, vous connaissez peut-être cette histoire, et puis finalement, le Seigneur le convainc d'y aller. Pierre y va, il arrive chez Corneille, il lui annonce clairement l'évangile, et on voit que Pierre parlait encore. Quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Deuxième signe avec Pierre, avec Corneille et Pierre aussi. Premier signe, à la Pentecôte, c'était pour les Juifs. Clairement, dorénavant, l'Évangile sera annoncé dans toutes les langues et pas seulement à travers Israël. Deuxièmement, avec Corneille, c'est un signe pour les non-Juifs. Conversion maintenant des païens, le Dieu d'Israël, et bel et bien confirme son souhait d'être adoré par toute la terre. Hein. Donc, deuxième signe, celui-ci, c'est pour les non-juifs. Dorénavant, le salut est aussi pour les païens. Notez bien ici, si tu veux revenir, voilà, très bien, sur ce verset-là. Il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il parlait des langues inconnues ? Alors, c'est un peu moins précis qu'à Pentecôte, mais ils les entendent parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Donc, ils ont bien compris le sens, donc a priori c'était des langues qu'ils maîtrisaient, ou du moins voilà, qu'ils avaient des notions, parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient en train de célébrer la grandeur de Dieu. Premier signe, Pentecôte pour les Juifs. Deuxième signe, Corneille, les non-Juifs. Troisième signe maintenant, lors d'un voyage de Paul à Éphèse dans Actes 19, versets 1 à 6. Et là c'est encore intéressant. Parce qu'on va voir qu'il va visiter des disciples. Des disciples du dernier prophète de l'Ancien Testament, de celui qui fait le pont hein, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc on reste à Corinthe, on est toujours à Corinthe, pendant qu'Apollos, lui, était à Corinthe, nous, on est à Éphèse, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Éphèse, sachez-le les amis, c'était la ville de l'Antiquité où il y avait le plus de manifestations magiques, ésotériques, etc. Il y avait des quartiers où on disait qu'il fallait même pas y aller tellement il y avait de manifestations puissantes, diaboliques et tout. Ils étaient baignés dans l'occultisme. Et c'est dans cette ville que, vous savez, ils vont brûler une grande quantité de livres de magie là, pour je ne sais plus quelle somme, etc. Donc c'était une ville qui avait beaucoup de ce type de manifestations. Donc on est à Éphèse. Paul, il arrive et puis après avoir rencontré quelques disciples, il leur dit... Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Ils répondirent, du baptême de Jean, disciple de Jean donc. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc là, il est en train de les évangéliser parce qu'il se dit, pas clair, ils sont arrêtés à Jean, ils n'ont peut-être pas compris qu'après, Jean, il était là pour annoncer Jésus en fait. Sur ces paroles, ils furent baptisés, donc cette fois, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors là, effectivement, on a une manifestation encore... Mais là, en fait, c'est la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il restait encore quelques disciples de Jean. Le lien n'était pas encore bien fait entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, donc il y a cette manifestation de l'Esprit, cette fois-ci, c'est pour vraiment ceux qui étaient un peu entre deux eaux, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il y avait d'abord un signe pour les Juifs, ensuite un signe pour les non-Juifs, et Dieu envoie un signe aussi pour ceux qui étaient un peu à un pied de chaque côté, là, entre l'Ancienne Alliance avec Israël et la Nouvelle Alliance. Il y avait donc ce prophète qui fait le lien entre les deux livres, Jean-Baptiste, il restait des disciples, donc il y a ce signe qui est là à présent pour eux. Maintenant, la boucle est bouclée, il y a eu un signe pour les croyants, pour les Juifs, un signe pour les non-Juifs, et un signe pour ceux qui étaient un petit peu entre les deux alliances, là. L'Alliance Nouvelle, cette fois-ci, elle devient effective. La boucle est bouclée. Alors ici, on a trois marqueurs de temps lors des trois passages où le parler en langue est évoqué dans le Nouveau Testament. Hein. Je le résume encore une fois. Conversion des Juifs à la Pentecôte, acte 2. Conversion des païens avec Corneille, acte 10. Et puis conversion des disciples du dernier prophète de l'Ancien Testament, acte 19. Voilà les trois événements où l'on entend parler des langues dans le livre des actes. Je fais une petite aparté aussi, les chrétiens ne doivent pas attendre un don du Saint-Esprit, hein. Un baptême du Saint-Esprit. Parfois on vous dit, t'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit. T'as été baptisé dans le Saint-Esprit ? T'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit ? Non ! Regardez bien, c'est comment. Là ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ, lorsque Paul leur... Vas-y, tu remontes avant. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, et après, ils ont le don du Saint-Esprit. Donc, n'attendez pas un second baptême. Hein. C'est à la conversion qu'on reçoit le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin. Eux, ils avaient une étape un peu intermédiaire où ils avaient pas, voilà, l'alliance n'était pas encore bien claire pour eux et pas bien mis en place. Mais aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul baptême à avoir. C'est le baptême en Jésus-Christ. Hein. Ne cherchez pas un autre baptême. Alors, ça, c'était pour les actes. Maintenant, on va regarder l'église de Corinthe. C'est le deuxième passage du Nouveau Testament où le parler en langue est clairement évoqué. C'est les chapitres 12, 13 et 14. Alors là, nos amis qui parlent en langue s'appuient beaucoup sur ces textes-là parce que c'est là où il y a toute la doctrine finalement pour eux. Hein. Il est intéressant de noter voilà, que c'est les seuls passages du Nouveau Testament où il y a vraiment, vraiment la doctrine, de la doctrine sur ce sujet-là. En dehors de ça, on n'en parle même pas. Même dans la lettre à Éphèse. Il y a eu du parler en langue à Éphèse. Il y avait beaucoup de manifestations magiques, miraculeuses, etc. dans cette ville. Mais même dans la lettre aux Éphésiens, vous n'avez pas trouvé grand-chose sur le parler en langue, même rien du tout. Donc, c'est plutôt à l'église de Corinthe que ça se passe, ce parler en langue. Du moins, dans ce qui nous est relaté. Alors, est-ce que ça veut dire que donc, si ces chrétiens de Corinthe étaient ceux qui parlaient a priori le plus en langue, tout le monde parlait en langue, donc si aujourd'hui on nous dit que les chrétiens doivent parler en langue, on doit se dire, par déduction, que le modèle des chrétiens de Corinthe sont des modèles de chrétiens remplis du Saint-Esprit. C'est une déduction, hein, logique. Donc posons-nous la question, quelle est l'église du Nouveau Testament à qui Paul a le plus de reproches à faire ? Si vous êtes familier du dimanche dans cette église, vous savez, c'est le bulletin de fin de trimestre, l'église de Corinthe, c'est « peut mieux faire »,« pour l'amour fraternel, repassera »,« doit travailler à fond sa bienveillance »,« doit mieux travailler sa théorie », parce que la pratique, c'est tellement beauf qu'il y a vraiment besoin de revoir les bases. Quoi. C'est un peu le bulletin de fin de trimestre des Corinthiens, c'est « blâme, 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 pas la moyenne, redouble ». Paul, il leur fait... Au tout début, il commence en disant « c'est pas mal », mais après il dit « voilà ce qui va pas ». Ce qui va pas, c'est énorme. Donc, première petite chose pour nous, pour attirer notre vigilance, l'église où il y avait le plus de parler en langue, c'est l'église du Nouveau Testament où Paul a le plus de reproches à faire, pour le désordre. Okay ? C'est là qu'il y avait des problèmes de discipline, doctrine, etc., et de désordre. Est-ce que les chrétiens de Corinthe étaient des modèles de chrétiens marchant selon l'Esprit ? Parce qu'a priori, quand on parle en langue, on est rempli du Saint-Esprit. Eh bien, on va regarder en Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Vous l'avez vu, hein, Paul, au début, en introduction, quand j'ai lu, tout le monde parle en langue dans l'église, et il dit, voilà, on parlait tous en langue, formidable. Mais voilà ce qu'il leur disait quelques chapitres plus tôt. Pour moi, frère, on est dans 1 Corinthiens 3, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre dit « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce qu'il leur dit là ? Bah Paul, il leur dit, vous marchez pas selon l'esprit, vous marchez selon la chair. Clairement, vous êtes des hommes, vous êtes charnels, vous marchez pas selon l'esprit, quoi. Et il le dit, hein, il le dit clairement. Hein. Si tu regardes, t'es en version combien, la 21, 79, relis le verset 1. Tu veux passer en 21, seconde 21. C'est le même verset, mais en version seconde 21. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre. » On a ici un exemple de chrétiens, ils parlaient tous en langue, mais ils marchaient comment dans leur vie ? Par le Saint-Esprit de Dieu ? Non, ils marchaient par leur nature propre. Ah, voilà un signe qui devrait quand même nous troubler, là, cette fois-ci. Finalement, ce n'étaient pas des gens qui marchaient selon l'Esprit de Dieu. C'était leur nature propre qui parlait à travers eux. Vigilance. Est-ce que c'était des personnes affermies dans la parole de Dieu ? Est-ce que c'est vraiment des chrétiens ? On pouvait dire qu'ils étaient fermes dans la doctrine. Regardez 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. On est en train de regarder les caractéristiques de ces Corinthiens parce que c'est eux l'exemple du parler en langue dans la Bible. Okay ? Donc, quand on sort des doctrines, il faut aussi regarder le contexte de l'époque. 2 Corinthiens 11, 3 à 4. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Cependant, voilà ce que Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il va leur réécrire plus tard. Il va leur dire, cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité, de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, écoutez bien, ou si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire, vous êtes tellement loin de la doctrine que même si on vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus, ou si on vous donne un autre esprit, vous ne voyez même pas la différence, quoi. Ah, donc ils parlaient en langue, dangereux, parce qu'ils étaient capables d'accepter un autre esprit que le Saint-Esprit envoyé de Dieu. Et ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils pouvaient le supporter très bien. Pas de différence pour eux. Voilà un des chrétiens qui était prêt à porter crédit à toutes sortes de doctrines, et donc même à prêter crédit à un esprit qui ne serait pas le Saint-Esprit de Dieu. Waouh ! Donc on a une église connue pour ses désordres moraux, connue pour ses problèmes doctrinaux, composée de chrétiens qui marchaient essentiellement selon nos natures propres et pas selon le Saint-Esprit, et qui étaient capables de donner crédit à un autre esprit que celui envoyé par Dieu. Et j'attire votre vigilance sur ces points-là. Attention, parce qu'aujourd'hui, quand on dit le parler en langue, regardez les Corinthiens, c'est pas forcément un exemple de chrétien spirituel. Hein. Alors, on doit se poser légitimement les questions suivantes. Je les laisse ouvertes pour l'instant, je vais les refermer après. Devons-nous calquer une pratique de culte en prenant pour modèle une église qui tolérait l'inceste, l'ivronnerie, la fornication, les divisions, les querelles, les poursuites en justice, l'idolâtrie et l'immaturité spirituelle? Devons-nous copier nos pratiques sur la base de chrétiens parmi les plus charnels du Nouveau Testament que Paul mentionnait lui-même comme ne marchant pas par le Saint-Esprit? Pour l'instant, on ouvre la question. Alors, c'est vrai qu'à un moment, l'apôtre va dire aux Corinthiens, on peut le regarder, 1 Corinthiens 14, verset 5, il va leur dire quelque chose. Il leur dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Mais il leur dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais dans tout le reste du chapitre, il va chercher plutôt à les persuader, voilà, de rechercher la prophétie. Pourquoi ? Parce que la prophétie, c'est ce qui va les édifier et ce qui va leur donner la doctrine pour pouvoir bâtir leur vie chrétienne. Vous vous rappelez, on avait vu que les dons de prophétie et de langue étaient toujours valides à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que toute la révélation n'avait pas été écrite dans la Bible. Donc ils avaient encore besoin de prophétie pour leur révéler des textes qu'ils n'avaient pas. Parce que, comme nous l'avait dit Andou, les Corinthiens, ils avaient quoi comme texte ? Ils avaient la lettre aux Corinthiens. C'était ça leur Bible du Nouveau Testament. De la Nouvelle Alliance, ils avaient un Corinthien, puis peut-être la lettre précédente qu'on n'avait pas. Ils avaient deux textes. Donc ils avaient besoin des révélations parce qu'il fallait que Dieu leur envoie tous les messages, etc. Il fallait qu'ils aient une révélation complète. Mais depuis que la Bible a été écrite, plus besoin, tout est là. Est-ce que toute la puissance de Dieu est dans la Bible ? Amen. Est-ce que toute la révélation de Dieu est dans la Bible ? Amen. Est-ce que la Bible est suffisante pour vous toucher au salut, pour vous convaincre de péché ? Amen. Pourquoi on aurait besoin de rajouter quelque chose ? Rappelez-vous ce que dit l'Apocalypse. Hein ? Si quelqu'un rajoute quelque chose à ce livre, il soit comment ? Maudit, anathème. La révélation est complète, plus besoin de prophétie. Voilà. Alors se parler en langue qui est là. J'aborderai le point de la prophétie, on verra ça la semaine prochaine. Alors, pour l'instant, on laisse les questions ouvertes, on va regarder ce qui nous intéresse à présent. Qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ sur le parler en langue ? Quand on a une question, qu'elle soit de doctrine, question dans sa vie, un problème, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut toujours regarder à Jésus-Christ, parce que c'est notre modèle en toute chose, et surtout sans la doctrine. Quand on a une question à doute, on regarde ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a dit dans les évangiles. Christ est notre modèle pour toute chose. Alors, qu'a dit le Seigneur par rapport au parler en langue ? Première question, Jésus a-t-il parlé en langue ? Est-ce que Jésus a parlé en langue ? Non. Ah, premier point. Si Jésus est notre modèle, c'est ce que dit la Bible, hein, c'est notre modèle en toute chose, hein, c'est l'homme parfait, qu'on doit copier en tout point. Jésus n'a pas parlé en langue. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire quelque chose que Jésus n'a pas fait ? On n'a pas de modèle. Jésus, c'est notre modèle. Il nous demande de faire une pratique et on n'a pas de modèle, on n'a pas son modèle pour la suivre. Ça semblera un peu étrange. Si le maître n'a pas donné d'indication à ses élèves, c'est pas vous qui allez inventer le théorème de Pythagore. Enfin, moi, j'en suis pas capable, en tout cas. Je suis pas incapable de faire ces choses-là. Si j'ai pas un maître qui m'explique, je suis qu'un élève, je comprends rien. Donc, le maître n'en a pas parlé. Ah, étonnant. Est-ce que le maître, donc, il n'a pas parlé en langue, Jésus n'a pas parlé en langue, est-ce qu'il a enseigné sur les langues ?
Non.
Pas de doctrine de Jésus sur les langues ? Il ne nous a pas expliqué comment faire, que blablabla, interprétation et tout ? Non, il n'a pas parlé. Alors, soyons honnêtes avec la parole de Dieu, il a évoqué ce point une fois. Que nos amis qui parlent en langue, bien entendu, ressortent, et c'est légitime, ils ont raison de le faire, vu que c'est un texte qui semble appuyer leur pratique. Marc 16, versets 14 à 18. C'est à la fin de l'évangile de Marc. Jésus apparaît aux 11, donc il était déjà mort, il apparaît. Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc on retrouve cette idée de maintenant, hein, c'est toutes les langues qui vont évangéliser et faire connaître la gloire de Dieu. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah bah oui, Seigneur Jésus a parlé du parler en langue, il l'a évoqué, il l'a dit. Il l'a dit, ceux qui croiront en mon nom, ben ils pourront parler en langue. Mais ils pourront faire que ça. Reviens si tu veux. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ils chasseront les démons. Donc, des églises qui préconisent de parler en langue, souvent on va vous dire aussi que vous avez des mauvais esprits, donc on va proposer de les évacuer de vous, n'est-ce pas? Donc, chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, on vient de le dire. Ils saisiront des serpents, ils pourront boire du poison et ils guériront les malades. Alors, dans ces églises, effectivement, on va vous dire aussi, on guérit les malades. Donc on guérit les malades, on chasse les démons, on parle en langue. D'accord, très bien, ok, pas de problème, je veux bien. Et pourquoi vous ne faites pas les deux autres? Pourquoi vous ne buvez pas du poison et vous ne vous attrapez pas des serpents? C'est dans la liste. Qu'est-ce qui légitimement les autorise à le sortir du contexte? Attrapons des serpents, buvons du poison. Pourquoi ils ne le font pas? Je laisse la question. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est assez facile à comprendre. Hein. Si vous dites « je parle en langue » et que vous mettez à parler en langue, bon, oui, ok. Qu'est-ce que je vais prouver que c'est une vraie langue? Personne ne pourra prouver que vous avez tort. Si vous dites « je vais guérir quelqu'un », franchement, s'il y a vraiment le don de guérison, les chrétiens n'iraient jamais chez le docteur. J'y suis pas allé cette année, merci Seigneur. Mais en tout cas, dans les hôpitaux, on trouve des chrétiens et de la maladie. Sinon, les hôpitaux seraient remplis, les cabinets de docteurs seraient vides de tous les chrétiens. Ça se saurait, hein. Si franchement vous étiez capable de guérir, le 20h de TF1 Claire Chazal l'afficherait en grand, Gilles Boulot maintenant, ce serait guérison miraculeuse, les médecins en grève, on veut plus du don de guérison parce qu'on est au chômage, qui va payer notre retraite, enfin voilà, un argument de plus. Donc, si vraiment, Véronique, si le don de guérison existait, tu serais mal. Non mais c'est clair, mais oui, bien sûr. Donc guérison, c'est relatif, ok? Je peux pas prouver que vraiment. Après, c'est quoi? L'exorcisme, la sortie des démons, okay, je peux pas le prouver. Bon, tu l'as fait, très bien. Par contre, attrape un serpent devant moi, je vais voir si tu as raison. Bois du poison devant moi, tu bois un litre d'eau de Javel et je vais voir si tu survis après. Et là, je peux le prouver. Hein, c'est facile, hein. Effectivement, sur les 5, on n'en garde que 3. Parce que c'est les seuls qu'on peut un petit peu jouer avec sans avoir à justifier. Je dis pas qu'ils sont malhonnêtes et je vais y venir après. Hein. Donc, ça, c'était des dons un peu extraordinaires. Paul a parlé en langue. Paul parle en langue. 1 Corinthiens 14, 18. Paul dit aux Corinthiens, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Donc Paul parlait en langue, hein, pas de souci. À l'époque, pas de souci. Paul, il a été piqué par un serpent. Île de Malte, ils font naufrage. Il veut attraper du bois. Il se fait piquer par un serpent. Tout le monde le regarde comme ça en disant, il va mourir, c'est la condamnation de Dieu. Puis lui, tranquille, continue sa petite vie, tout va bien, il n'est pas mort. Dieu l'avait dit, pour lui, c'est un apôtre. Oui, Pierre a guéri des malades, etc. C'était quoi le but? C'était que de montrer la crainte de Dieu, devant que tous les hommes aient la crainte de Dieu, finalement, de montrer la gloire de Dieu. Voici ce que Dieu fait, que les hommes aient crainte et que dorénavant, ils se convertissent au Seigneur. Mais ça, le Seigneur, il a dit quoi? Matthieu 28, il dit, on va le voir après, le Seigneur, les recommandations qu'il fait, c'est faites de toutes les nations des disciples. C'est pas faites des choses miraculeuses, hein. C'est prêcher l'évangile. Donc Jésus n'a pas parlé en langue, il n'a pas enseigné un sujet, il l'a évoqué ici, mais on voit que c'est dans un certain contexte du début de l'Église, et qu'aujourd'hui, nos amis qui parlent en langue, qui guérissent et qui, soi-disant, exorcisent, ne prennent pas des serpents à la main, ils ne boivent pas de poison, hein, ils le font pas. Hein. Donc on voit bien que c'est aboli. Il n'y a aucun passage où ils peuvent s'appuyer en disant « Ah oui, mais là, c'est marqué que maintenant, on ne peut plus boire de poison et attraper de serpents. » Non, non, non. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils abolissent eux-mêmes, hein. Donc, si on fait ça, on fait tout. On fait les 5, pas 3 sur 5. Jésus n'a pas laissé de consigne à ce sujet. Il n'a pas dit... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Matthieu 28, verset 18 à 20. Voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc là, Jésus s'en va, il va partir pour de bon. Et il dit, « Allez, » et alors il parle à ses apôtres, hein, aux disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc le Seigneur, il nous dit quoi ?« Allez, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, qu'ils gardent la parole, etc. » Il ne parle pas du parler en langue ici, hein, qui est soi-disant fondamental et essentiel à toute vie chrétienne. Le Seigneur n'en parle pas. Hein. Il dit, vous maintenant, votre rôle, c'est d'aller porter la parole de Dieu, aller d'évangéliser, de faire des disciples. Rien d'autre. Donc, on voit que Christ ne parle pas de ce sujet. Pourquoi Christ n'aurait pas abordé, mentionné ou enseigné le parler en langue, si c'était tellement important pour la vie chrétienne? Pourquoi ? Pas un mot, sauf le passage qu'on a vu qui était pour un certain contexte. Tout simplement parce que cette pratique était réservée aux chrétiens d'une certaine époque. Elle est aujourd'hui caduque, comme le don de guérison. Véronique, tu me confirmes, sauf si tu me dis que tu as déjà guéri des malades sans piqûres, sans... juste l'imposition des mains, tu fais pas ? Ah, tu sais que tu pourrais gagner ta vie comme ça. Donc pas de guérison, exorcisme, attraper les serpents, boire du poison, tout ça, c'est comme le parler en langue, les amis, vous avez compris, c'était pour c'est pour avant ça. Ça s'arrêtait une fois que l'Église était en place, et une fois que la parole était bien rédigée, consignée dans la Bible, il n'y a plus besoin de spectaculaire. Tout est là. Jésus n'a pas dit, n'en a pas parlé, quoi. Rien dessus. Juste, voilà, les premiers, ils allaient faire des ressuscités des morts, etc. Mais c'était les premiers, c'était les tout premiers. Donc, alors on va essayer de refermer les questions, même si je viens déjà de le faire. Quelle est la place du parler en langue dans l'Église aujourd'hui ? Ben, on va refaire des questions encore. Est-ce que tous les chrétiens doivent parler en langue ? C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce que ces églises disent. Tous les chrétiens doivent parler en langue parce que c'est un signe, c'est la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Eh ben non. Regardez 1 Corinthiens 14, 22. Je pose des questions et bien sûr j'y réponds en même temps. C'est quoi les langues ? Ben, les langues, c'est un signe, pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Donc il ne faut pas dire le parler en langue, c'est le signe que vous êtes chrétien. Non. Ce n'est pas le but du parler en langue, parce que le parler en langue, c'était un signe pour les non-chrétiens. Ce n'était pas pour les chrétiens. Donc cet argument-là, il ne tient pas. Ensuite, on nous dit tous les chrétiens doivent parler en langue. Non. 1 Corinthiens 12, 29, 30. Paul fait la liste des chrétiens dans l'Église, et puis il dit à tout le monde, tous sont-ils apôtres ? Est-ce que vous êtes tous prophètes ? Est-ce que vous êtes tous docteurs ? Verset suivant, tous, voilà, tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est non, bien entendu. Est-ce que tous les chrétiens doivent parler en langue? Non. C'est pas ce que dit Paul, c'est pas ce que dit la Bible. Hein. C'était réservé à certains chrétiens, mais c'était pas tout le monde. Donc aujourd'hui, si on vous dit, t'es chrétien, tu dois parler en langue, pas du tout. Pourquoi? 1 Corinthiens 12, c'est pas vrai. À quel moment vient le Saint-Esprit, justement, ce fameux Saint-Esprit ? Ben regardez, Éphésiens 1, versets 13 et 14. À quel moment on a le Saint-Esprit, alors ? Éphésiens 1, 13, 14. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc le Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est un gage de notre héritage. Donc si on est chrétien, on a le Saint-Esprit. Ça doit être notre gage. À quel moment on l'a ? Reviens le verset d'avant. Après avoir entendu la parole de vérité, vous avez entendu l'évangile, vous avez cru, et bien donc vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez entendu, vous avez cru, vous êtes scellé du Saint-Esprit. N'attendez pas une manifestation extérieure, spectaculaire, qu'on vous impose des mains et qu'on a besoin de se rouler par terre et faire des trucs un peu surprenants, quoi. Entendre, croire, saut du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. Ça vient à la conversion. Il n'y a rien besoin d'autre. Donc, tous les chrétiens doivent-ils parler en langue ? Non. Est-ce un signe qu'on a reçu le Saint-Esprit ? Non. Ce don a-t-il cessé ? Oui, vous l'avez compris. Dieu a donné parfois des dons temporaires dans l'histoire qui se sont arrêtés ensuite. Ne soyons pas troublés par ça. Je vous en donne deux. Dans l'Ancien Testament, regardons Exode 31, versets 2 et 3. Dieu donne la consigne de construire un tabernacle. Et il va équiper un serviteur, Betsalel. Dieu dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui ont eu le privilège d'avoir l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Hein. Lui, il l'a eu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu s'est choisi un architecte, un artisan, pour construire le tabernacle. Il va lui donner le Saint-Esprit qui va lui donner toutes ces capacités-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce don est encore utile ? Bon, non, ce n'est pas un don qui est accordé à tout le monde. Voilà, il y avait juste besoin de ce don temporaire à ce moment-là pour cet homme. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est plus utile parce que les croyants forment le temple de Dieu. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un forcément qui va recevoir. Alors, notre ami Luca a le don du bricolage. C'est un don aussi. Hein. Mais là, on voit que c'est un don spécifique pour une personne. Voilà, puis ensuite, Dieu retire ce don. Il n'est pas utile à toute la communauté. Samson. Qu'est-ce qu'il a reçu comme don, Samson ? Ah, c'est pas la sagesse, hein, malheureusement. Hein. Force physique. Par moments, il reçoit l'Esprit de Dieu, il va pousser les colonnes. Samson fait partie d'un des rares personnages de l'Ancien Testament à avoir également reçu le Saint-Esprit. Surprenant quand on connaît sa vie, mais voilà. En tout cas, Dieu lui a donné ce don de la force physique. Est-ce que c'est un don pour tout le monde ? Est-ce que vous êtes tous forts physiquement ? Est-ce qu'on est tous forts physiquement ? Non, pas forcément. On serait bien incapable de faire ce qu'a fait Samson. Donc, un don ponctuel pour une personne, et puis Dieu retire ce don, c'est pas utile à toute la communauté. Donc, le don de langue, c'est un peu la même chose. Un don ponctuel qui n'est pas utile à tout le monde. Et on a vu que c'était dans certains cas, sur certaines personnes. Essayons d'expliquer pourquoi ce don spirituel du parler en langue, donc en corinthien, a disparu pendant 19 siècles. Il disparaît à la fin du 1er siècle, il réapparaît au début du 20e. Pourquoi pendant 19 siècles, Dieu n'en a pas eu besoin, finalement, il ne l'a pas utilisé ? J'aimerais qu'on me réponde. Pourquoi ce don est seulement mentionné dans une seule des épîtres de Paul, pendant tout le Nouveau Testament, et en plus, quand il en parle, il est plutôt en train de leur faire des reproches. Bon. Et j'aimerais aussi qu'on réponde à ma troisième question. Pourquoi il y a des missionnaires qui sont obligés d'apprendre des langues étrangères, qui sont obligés de vivre dans des pays, qui ont toutes les plus grandes difficultés du monde à traduire la Bible dans des langues qui ne sont pas forcément connues ? Pourquoi est-ce qu'il faut que parfois ils soient mis à mort pour prendre le risque d'aller au contact de ces personnes et tout. Pourquoi Dieu ne leur donne pas le don de parler en langue ? Si c'était toujours d'actualité, Dieu pourrait le faire. Hein. Il l'a fait, là. Pourquoi est-ce que Dieu ne le ferait pas ? De préparer des missionnaires, voilà, je vais traduire la Bible en... Je ne sais pas, il y a des dialectes inconnus, peut-être, que vous maîtrisez, je ne sais pas. Voilà, un dialecte inconnu, aujourd'hui, ça prend des années à traduire une Bible, parce qu'il faut comprendre la langue, c'est très difficile, il n'y a pas d'interprète. Il faut ensuite la traduire, c'est très long. Dieu pour envoyer le Saint-Esprit, hein, avec les langues étrangères, langues inconnues. Vas-y, 2 mois, c'est fait, boum ! Dieu ne le fait pas. Pourquoi ? Si elle parlait en langue, ça montre bien que ce don a disparu. C'est difficilement défendable, hein, quand même, ce don du parler en langue. Hein, ceux qui le prêchent, c'est quand même dur à défendre. Hein. Et le fait de parler en langue, ce n'est pas forcément un signe d'appartenance à Dieu. Hein. Le fait de sortir, soi-disant, des démons, de guérir et tout... C'est pas forcément une preuve qu'on appartient à Jésus-Christ. Regardez Matthieu 27, versets 21-23, on va terminer tranquillement. Matthieu 7, versets 21-23. C'est Jésus qui parle, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Vous en voyez quelques-uns ? Dans YouTube ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Donc quand vous voyez des manifestations spectaculaires, ce n'est pas forcément une preuve de manifestation du Saint-Esprit. Hein. Le Seigneur dit, arrière, vous êtes des menteurs, voilà. Vous trompez mon peuple. C'est dur, hein. Alors je veux quand même ouvrir une petite phrase optimiste. Je ne doute pas que certaines personnes qui pratiquent le parler en langue soient sincères, soient des vrais frères et sœurs. Hein. Il y a des églises pentecôtistes, etc., où la parole de Dieu est prêchée, l'évangile est annoncé, le salut est compris et reçu, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne dis pas que toutes ces églises-là sont des démons, des suppôts de Satan, etc. Ce n'est pas mon propos. Hein. Simplement, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, que ce sont des frères et sœurs, pas de problème avec ça. Je pense qu'on les retrouvera au ciel. Simplement, ben on a un ennemi qui veut nous tromper dans notre doctrine et qui veut nous entraîner à tout vent, etc., pour nous tromper, simplement. Et pendant qu'on fait ça, on ne prêche pas l'évangile. Ça se concentre sur la personne en disant ta maladie, ton parler en langue, ton machin, tout ça. Pendant ce temps-là, tu ne vas pas à l'extérieur pour prêcher. Et je vous ai raconté cette petite anecdote l'autre jour. Je parlais avec quelqu'un qui pratique ça et qui me dit, a priori, il est un chrétien. On a parlé du salut et il avait compris. Donc, il était sauvé, je pense. Et il me dit, je vais chez une cliente, je vous ai raconté l'anecdote, je vais chez une cliente, elle avait mal au genou, j'ai prié avec elle au nom de Jésus, elle avait plus mal au genou. Oh, formidable. Ça s'appelle effet placebo aussi, hein, Véronique. Mais il me dit, formidable, je l'ai guérie, super. Je lui dis, donc, elle était chrétienne? Il me dit, pas du tout. Je lui dis, donc, tu lui as parlé du salut? Elle me dit, ah, j'ai même pas pensé. C'est quoi le commandement de Matthieu 28? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu a pas dit, allez, guérissez-les, il y a Véronique pour ça et les autres médecins. Allez, guérissez-les, sortez leurs démons, etc. On n'a pas de commandement de faire ça. Non, le Seigneur nous a dit, évangélisez-les. Donc si quelqu'un me dit, j'ai prié, je lui ai sorti son truc du genou, ok, t'as prêché l'évangile? Non, mon frère, t'as oublié l'essentiel. Tu as peut-être guéri le genou, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai un problème avec l'autre, quoi. Tu n'as pas annoncé l'évangile. Donc pendant ce temps-là, l'ennemi, bah, tout simplement, il joue là-dessus, et puis voilà, et puis tout va bien. On va relire 2 Corinthiens 11, 3, 4. Et la lumière de ce qu'on vient de dire, vous réécoutez le texte. Parce que Paul, le Corinthien, il parlait à des chrétiens. Hein. Il ne parlait pas à des non-chrétiens. Hein. Il leur a dit ça tout à l'heure. Remettez-le dans le contexte des chrétiens d'aujourd'hui. Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, bah vous le supportez fort bien. On se retrouve dans le cas, pour moi, de Corinthiens, qui sont en train de faire des pratiques qui n'ont plus lieu d'être. Donc l'ennemi leur dit, ces anciennes doctrines, ces anciennes pratiques, qu'est-ce qui vous empêche de les faire? Donc ils sortent tout du contexte, et on a vu que c'est indéfendable aujourd'hui de parler en langue à la lumière du Nouveau Testament et de l'enseignement de Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison de reproduire ces pratiques-là. Ils continuent de le faire, mais pour moi, c'est un autre esprit, et il le supporte très bien, malheureusement. Alors, je vais conclure. Voilà, 3 marqueurs de temps dans les passages où on a vu le parler en langue dans le Nouveau Testament. Donc, il y avait tout d'abord la conversion des Juifs, vous vous rappelez, à la Pentecôte, un signe pour les Juifs, premier point. Ensuite, un signe pour les païens, avec Corneille. Et puis ensuite, un signe pour faire le pont entre l'alliance l'ancienne et l'alliance nouvelle avec les disciples de Jean-Baptiste. Ensuite, l'église de Corinthe, où c'est enseigné dans le Nouveau Testament, bah, c'est pas forcément le miroir de ce qu'il faudrait qu'on soit. Église connue pour ses désordres moraux, ses problèmes doctrinaux, des chrétiens qui marchaient par leur nature propre et pas selon le Saint-Esprit, est-ce qu'on doit suivre leur modèle? Je crains que non. Ce que Christ en a dit, rien, ou presque. Juste un passage, qu'il ne faut pas sortir du contexte. Donc, 2, est-ce qu'on doit reprendre une pratique pour laquelle le Seigneur n'a laissé ni exemple ni consigne? Donc, sa place dans l'Église aujourd'hui, bah, aucune, les amis, tout simplement. Hein. On peut vivre sa foi et on peut aller témoigner du Seigneur Jésus-Christ sans parler en langue. Je pense que le Seigneur nous a donné autorité et pouvoir pour le faire. Aujourd'hui, ce don est aboli. Simplement, il ne faut pas s'éloigner de la simplicité du message de Jésus-Christ. Voilà. Seigneur a un message très simple, il ne nous a pas demandé de faire des choses spectaculaires par-dessus, prêcher l'évangile. Alors attention mes amis, je vais terminer de façon spectaculaire, je vais parler en langue. Alors je vais boire un peu d'eau. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, je vais vous parler en langue. Alors, Fatoi Isao no Nityavan, Adriamitra Isao Tantolo Isao. Nomemi nizanani lai tokana. Mbatsio verizai reatra mino azai. Fue anana fainana mandra isaka. Pardon pour l'accent, c'est Jean 3,16 en malgache. C'était spectaculaire. Vous avez rien compris. Voilà. Ok. Il y en a un qui a dit amen parce qu'il a compris. Mais voilà, vous voyez, parler en langue où ça nous emmène. Donc, mes amis, vous avez vu aussi dans tous ces passages-là, il n'y avait que des langues connues. Il y a aucun... Sortez-moi un texte où vous me dites que c'est une langue inconnue. Aucune preuve. Aucune preuve. Il n'y a rien qui nous permette de dire s'ils ont parlé des anges inconnus. Ah, il y a Paul qui dit, même si je parlais la langue des anges. Mais il ne dit pas, vous parlez la langue des anges. Il dit, si j'avais tout ça, même la foi qui déplace des montagnes, et même si j'avais la langue des anges, il est dans le superlatif, dans l'inatteignable. Je ne peux pas déplacer les montagnes avec ma foi. Je ne peux pas parler la langue des anges. Il est dans le « waouh », dans le « vous n'atteindrez jamais tout ça ». Donc, ne sortons pas du contexte en disant « on parle la langue des anges ». Ce n'est pas vrai. Romains 8, les soupirs inexprimables de l'esprit. C'est l'esprit qui parle des soupirs inexprimables, ce n'est pas le chrétien. Je ne sais pas si tu es en train de le prendre, là, c'est Romains 8, 26, je crois. Je ne sais plus, en tout cas, vous connaissez ce verset. L'esprit, enfin, vous n'êtes pas capable de prier, etc. C'est l'esprit, vous n'êtes pas capable de faire de vraies prières à Dieu. C'est l'esprit qui, voilà, qui fait des prières inexprimables, des soupirs inexprimables. C'est l'esprit qui prie, ce n'est pas la langue du chrétien. Donc, ne confondons pas avec le parler en langue. Voilà, mes amis, donc je vous ai parlé en langue à la fin. J'espère ne pas vous avoir troublé. C'était du malgache, n'ayez pas peur, tout va bien. Voilà. C'était aussi pour vous dire, cet après-midi, on va évangéliser Place Masséna, on va distribuer des Bibles. Et on aura l'occasion de parler en langue. En anglais, en malgache peut-être, en espagnol peut-être. On va parler plein de langues cet après-midi, parce qu'à Nice, c'est international. Donc si vous voulez, joignez-vous à nous tout à l'heure, on va aller distribuer des Bibles. Si vous ne pouvez pas prier pour ce rassemblement-là, que le Seigneur porte du fruit, qu'on puisse librement partager la parole de Dieu à toutes les nations, dans la simplicité de Jésus-Christ, quoi, sans rajouter autre chose. D'accord ? Je vais prier. Gloire à toi Seigneur, que tu t'es révélé aux nations, à nous, Seigneur, dans notre propre langue, et que nous avons pu comprendre. Heureusement que tu ne t'es pas révélé à nous dans une façon incompréhensible. Comment aurions-nous pu saisir ton message ? Seigneur, donne-nous de partager, Seigneur, ta grâce, le salut en ton nom, le salut par ton sang sur la croix, d'une façon simple, Seigneur, dans la langue que les autres personnes comprendront. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est claire, nous te remercions pour ton plan parfait. Te demandons de nous éclairer encore, Seigneur, pour que nous ne fassions pas d'erreurs dans nos interprétations, dans nos doctrines. Fais que ton peuple, Seigneur, saisisse ta volonté et l'accomplisse, Seigneur, avant toute chose. Nous t'en prions, Seigneur, de nous d'annoncer l'Évangile dans ta simplicité, simplement de pouvoir toucher les cœurs, Seigneur. Nous allons le faire tout à l'heure, soit avec le groupe qui ira distribuer ses 50 Bibles et chanter dans la rue. Protège-nous et, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide, justement, à pouvoir toucher leur cœur dans leur propre langue. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.